Bonsoir et bienvenue si vous nous écoutez. C'est RFI, il est 22h à Madrid, 1h de moins à Lisbonne.
Mathis Limano.
Le courant peu à peu rétabli en Espagne après une panne d'électricité massive. 35% du réseau est revenu, indique ce soir le gestionnaire du réseau électrique. Au Portugal, ce sont 750 000 consommateurs qui sont de nouveau raccordés. La panne est survenue aujourd'hui en fin de matinée, provoquant des scènes de chaos. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez appelle à la responsabilité et au civisme. On vote en ce moment au Canada. Élection législative pour désigner un Premier ministre. Deux favoris s'opposent, mais une chose les unit, la lutte contre les menaces d'annexion de Donald Trump. Et puis en Birmanie, cela fait un mois qu'un puissant séisme a frappé le pays. Vous allez l'entendre, les besoins humanitaires restent immenses. L'actualité de ce lundi, c'est cette panne d'électricité géante dans toute la péninsule ibérique. Au Portugal, le courant est revenu pour 750 000 consommateurs, annonce le gestionnaire du réseau. Tandis qu'en Espagne, l'électricité est rétablie à hauteur de 35%. Les services sont à pied d'œuvre, assure le Premier ministre Pedro Sanchez, qui appelle par ailleurs les Espagnols à limiter leurs déplacements. La circulation des trains est toujours à l'arrêt, le trafic aérien fortement perturbé. Les opérations de secours pour les personnes coincées dans le métro, les ascenseurs se poursuivent. Pierre-Olivier, ce soir, le gouvernement espagnol déclare l'état d'urgence pour les régions qui en font la demande.
L'état d'urgence décrété, pourquoi ? Parce que avec la nuit, sans système d'alarme et sans portes automatiques en état de fonctionner, les autorités redoutent des scènes de pillage ou de vandalisme dans les magasins, les supermarchés ou chez les particuliers à la faveur de l'obscurité. Imaginez plutôt, sans électricité depuis la mi-journée, aucun feu de circulation, des bouchons gigantesques sur les routes, pas de train, des aéroports presque totalement à l'arrêt et des hôpitaux qui fonctionnent épaulés plus que jamais par des groupes électrogènes. Une coupure générale qui cependant n'affecte pas les îles Canaries et les Baléares. Au Portugal, la situation est encore plus difficile, même si des centaines de milliers de foyers ont récemment pu être de nouveau raccordés au réseau. Sur les réseaux sociaux, des centaines de passagers se filment à l'aéroport de Lisbonne en attendant, dans le noir total, d'avoir plus d'informations sur leur prochain vol. Difficile, voire impossible, de joindre des personnes actuellement au Portugal. Les relais téléphoniques 4 et 5G sont pour l'instant hors service. Selon les opérateurs portugais et espagnols, il faudra encore plusieurs heures pour rétablir le courant. Pour l'instant, la raison de ce blackout, ce noir général qui replonge l'Espagne et le Portugal au Moyen-Âge, n'est pas encore connue.
Et j'ajoute qu'à l'instant, le gestionnaire du réseau portugais annonce que le courant pourrait être rétabli dès cette nuit dans tout le Portugal. Volodymyr Zelensky dénonce une tentative de manipulation après l'annonce par Vladimir Poutine d'un cessez-le-feu. Il entrera en vigueur la semaine prochaine, du 8 au 10 mai, à l'occasion des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors pourquoi attendre la semaine prochaine ? Le président ukrainien fait une contre-proposition, un cessez-le-feu immédiat, global et inconditionnel d'au moins 30 jours. Vladimir Poutine avait déjà déclaré un cessez-le-feu de 30 heures à l'occasion des fêtes de Pâques. Mettre fin à cette guerre insensée, c'est l'appel lancé ce soir par le secrétaire d'État américain Marco Rubio à son homologue russe Sergueï Lavrov. Au Liban, le Hezbollah dénonce une agression injustifiée après une frappe israélienne hier sur la banlieue sud de Beyrouth. Le parti chiite parle d'une agression politique visant à modifier les règles, référence au cessez-le-feu en vigueur avec Israël. Pour le mois d'avril, l'armée israélienne dit avoir frappé plus de 50 cibles terroristes au Liban. Enfin au Yémen, la réaction de l'ONU très inquiète après une frappe imputée aux États-Unis. Elle a visé un centre de détention pour migrants. 68 d'entre eux ont été tués. Washington, qui frappe quasi quotidiennement des positions des rebelles houthis au Yémen, n'a pour le moment pas réagi. Radio France Internationale, 16h04 à Ottawa. Le Canada se choisit un Premier ministre. Deux personnalités font la course en tête. Le conservateur Pierre Poilievre, distancé par le libéral Marc Carney. Mais c'est un autre nom qui est dans toutes les têtes, celui de Donald Trump. Entre guerre commerciale et désir d'annexer le Canada, son ombre plane sur ses législatives. Le président américain en a d'ailleurs rajouté une couche aujourd'hui, jour du scrutin, sur son réseau social, parlant du 51e État des États-Unis d'Amérique. Nafia Liber, le candidat conservateur Pierre Poilievre, lui a répondu.
La réponse ne s'est pas fait attendre. Le chef conservateur Pierre Poilievre a riposté sur les réseaux sociaux « Le Canada sera toujours fier et souverain et nous ne serons jamais le 51e État ». Il a aussi sommé le président américain de rester en dehors de l'élection canadienne en ajoutant que seuls les Canadiens décideront de l'avenir du Canada dans les urnes. Pierre Poilievre, lui, a voté ce matin dans la région d'Ottawa. À son arrivée à l'isoloir, il a plaisanté sur la taille impressionnante de son bulletin. Il fait 1 mètre de long, on y compte 91 candidats. Dans sa circonscription de Carleton, un groupe protestataire a inondé le scrutin de candidatures indépendantes pour ralentir le dépouillement. Résultat, les autorités ont exceptionnellement accepté qu'on commence à y ouvrir les urnes 6 heures avant la fin du vote. Et une forte participation est attendue, alors que plus du quart des quelques 28 millions d'électeurs se sont déjà exprimés lors du vote par anticipation.
Les premiers résultats de ces législatives au Canada sont attendus à partir de 2 heures, temps universel, à la fermeture des derniers bureaux de vote de la côte pacifique. Eux vont se réunir pour désigner un nouveau pape à partir du 7 mai. La date a été dévoilée par le Vatican aujourd'hui. Les 135 cardinaux électeurs se réuniront à huis clos dans la chapelle Sixtine. Objectif, élire un successeur au pape François, dont les funérailles se sont tenues samedi à Rome. C'était il y a un mois tout pile en Birmanie. La terre tremblait, un séisme de magnitude 7,7, la pire catastrophe naturelle en plus d'un siècle. 3800 personnes sont mortes. Sur le terrain, les rescapés, ils sont des milliers à vivre dans des tentes. Les besoins humanitaires demeurent considérables, comme en témoigne Nadia Khoury, chef de la délégation en Birmanie de la FICR, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Les besoins humanitaires sont immenses. Actuellement, on estime environ 1,3 million de personnes impactées par ce tremblement de terre qui a donc touché 5 régions et états de la Birmanie. On estime environ 200 000 personnes qui ont été déplacées à cause de ce tremblement de terre parce que leurs maisons ou leurs abris ont été touchés, détruits, endommagés ou ceux de leurs voisins. Il y a eu un effort énorme de la Croix-Rouge du Myanmar et de nos partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ici au pays pour répondre à cette urgence. La Croix-Rouge du Myanmar était là depuis le début pour distribuer de l'eau, de l'assistance médicale à travers ses cliniques mobiles et bien sûr distribuer des tentes, des bâches, toutes sortes d'abris, des produits d'hygiène. Et ça fait déjà un mois que ça dure. On a aussi envoyé des équipes d'urgence d'autres parties de la Birmanie. Les besoins continuent d'être immenses.
Un propos recueilli par Yelena Tomic. Les abysses ne sont pas à vendre. La haute mer n'appartient à personne. Après la Chine et de nombreuses organisations environnementales, la France a exprimé sa désapprobation en ce qui concerne un décret signé par Donald Trump, décret pour ouvrir l'extraction à grande échelle de minerais dans les grands fonds océaniques. À l'image des scientifiques, Paris craint un désastre environnemental et climatique si ces minerais venaient à être extraits. Lucille Gimbert.
Pour la France, personne ne peut s'arroger le droit de détruire les océans, surtout ceux sur lesquels ils n'ont aucun droit territorial. C'est le droit international, a rappelé Olivier Poivre d'Arvor. L'ambassadeur français des océans est aussi dubitatif quant aux perspectives économiques. L'extraction de minerais que Donald Trump veut encourager dans les plaines abyssales au nom de la transition s'annonce très coûteuse.
Les abysses ne sont vraiment pas un Eldorado, ce sont d'abord des sanctuaires. Certains peuvent y voir un potentiel en milliards de dollars dont nous doutons beaucoup car à notre connaissance, le modèle économique n'existe pas. Donc, en effet, il s'agirait d'un acte isolé et un peu désespéré.
Production d'oxygène noir, poissons au crâne translucide, oursins à sabots capables de marcher à plus de 4000 mètres sous la surface. Les grands fonds marins regorgent d'une vie incroyable, encore méconnue. Surtout, racler le fond des océans pourrait perturber les grands équilibres de la planète, explique le scientifique Bruno David, à qui la France a commandé un rapport sur la question.
Aller exploiter les grands fonds marins, ça suppose aussi de remobiliser des particules extrêmement fines qui vont faire d'immenses nuages sur des centaines de kilomètres carrés qui vont circuler dans l'océan et qui vont perturber éventuellement le cycle du carbone, le cycle de l'oxygène, le cycle de l'azote.
La vingtaine de chercheurs internationaux ayant participé à ce rapport recommande, à l'instar de Paris, un moratoire de 10 à 15 ans.
Lucille Gimbert, et puis on connaît les derniers membres du jury au Festival de Cannes. L'actrice américaine Halle Berry, l'écrivaine franco-marocaine Leila Slimani et le cinéaste sud-coréen Hong Sang-soo. Ils viennent donc clore le casting du jury qui sera présidé par la comédienne française Juliette Binoche. Top départ du Festival de Cannes le 13 mai.